Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless. Je vais vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Au programme du jour, on va partir aux îles Tonga, 9 jours après l'éruption du volcan. On ira voir comment ça se passe sur place. On a pu échanger hier avec le consul honoraire de France dans cet archipel. On va aussi discuter avec Jessica Bridgefoot, la directrice de la galerie d'art de Bendigo, avec une exposition sur des créateurs de mode aborigènes qui sera présentée le mois prochain à Paris. Paris, bien sûr, on va aussi en parler dans notre rendez-vous du mardi consacré aux actualités de la semaine en France. On reviendra notamment sur ce qui ressemble à une potentielle candidature de l'ancien président François Hollande pour le prochain scrutin qui aura lieu au mois d'avril. Et puis comme d'habitude, on parlera aussi de sport, notamment bien sûr de l'Open d'Australie qui se joue en ce moment à Melbourne, mais aussi de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais tout de suite, c'est l'heure des actualités. On y va. Les principaux titres de l'actualité de ce mardi 25 janvier. En Nouvelle-Galles du Sud, les restrictions actuellement en place, comme par exemple le port obligatoire du masque à l'intérieur, vont être prolongées à un moment où la vague Omicron est toujours très présente dans cet état. Le drapeau aborigène est désormais libre de droit. Le gouvernement fédéral en a racheté les droits d'exploitation à son créateur. Et au Burkina Faso, le président Kaboré a été démis de ses fonctions par des militaires qui ont fomenté un coup d'État. Et face à la vague Omicron qui faiblit un peu mais qui reste malgré tout très haute, les autorités en Nouvelle-Galles du Sud ont décidé de prolonger les restrictions actuellement en place dans cet état, comme je vous le disais, le port du masque obligatoire à l'intérieur, mais aussi les jauges dans les lieux recevant du public. Une annonce qui intervient alors que l'état recense ce mardi 29 décès et que près de 3000 personnes sont actuellement hospitalisées. D'après Dominique Perrottet, qui dirige l'état, le maintien des restrictions devrait permettre le retour en classe des élèves à la date prévue et aux opérations de chirurgie élective, actuellement suspendues, de reprendre à la mi-février.
Those restrictions that will be rolling over for this period include density limits of 2 square meters, wearing face masks indoors, no singing and dancing in hospitality venues. These measures are proportionate, but particularly, you know, taking a cautious approach as we move through and really focus on getting our kids back in the classroom on the first day of school this year in a safe way, and as well making sure that we get that non-urgent elective surgery back.
En attendant, trouver des tests antigéniques en pharmacie reste toujours très compliqué, y compris d'ailleurs pour les personnes vulnérables, pourtant prioritaires, notamment les retraités et les bénéficiaires des minima sociaux. Rappelons en effet que plus de 6 millions d'Australiens sont éligibles pour obtenir 10 tests antigéniques gratuits au cours des 3 prochains mois dans les pharmacies participant à cette opération annoncée tout récemment par le gouvernement fédéral. Sauf que, comme l'a expliqué Amir Daoud, un pharmacien de Sydney, à nos confrères de SBS Arabic, le problème, c'est que les pharmaciens eux-mêmes ont actuellement de grandes difficultés à obtenir des tests antigéniques. Par ailleurs, ils sont confrontés, comme de nombreux autres secteurs d'activité, à une pénurie de main-d'œuvre. Or, les pharmaciens sont actuellement submergés d'appels de personnes souhaitant savoir comment obtenir ces tests gratuits et ça ne se passe pas toujours très très bien. Écoutez Amir Daoud.
Yesterday we got abused too many times. Some people understand when we tell them we so far don't have the stock, and once it's available, we will announce it, as most pharmacies have a Facebook page, and even they use a sign once the free rapid antigen tests were available.
L'utilisation du drapeau aborigène n'est désormais plus soumise à des droits d'auteur. Le gouvernement a annoncé lundi soir avoir versé plus de 20 millions de dollars à son créateur, l'artiste et militant aborigène Harold Thomas. Ce drapeau, conçu à l'origine comme un symbole de ralliement à la cause des droits à la terre, avait été pour la première fois brandi dans une manifestation en 1971. Il est devenu depuis le symbole plus général des peuples aborigènes, mais aussi de leur lutte. Un drapeau qui représente donc l'histoire, mais aussi l'identité aborigène. C'est ce qu'a expliqué son créateur, donc Harold Thomas.
This flag was celebrating the land we love. It was at one stage called the land rights flag, but really it's an identity flag which says about land rights, which says about who we are, and which transcends a big story for all of us that the Aboriginal identity harks back to 40,000 years. So it's an identity thing.
Cette annonce est donc intervenue deux jours seulement avant Australia Day. Je vous rappelle que c'est demain la fête nationale australienne et cette date, on le sait, elle fait polémique puisque elle correspond à la prise de possession de l'Australie par les Britanniques. Une journée et un souvenir douloureux justement pour les communautés aborigènes. Et d'ailleurs, depuis plusieurs années, des contre-manifestations sont organisées dans la plupart des grandes villes du pays. Dans ces cortèges, on ne parle pas d'Australia Day, mais d'Invasion Day. Alors, le gouvernement est toujours opposé très fermement à l'idée de changer la date de la fête nationale, comme cela est parfois réclamé dans ces contre-manifestations, le ministre Ben Morton estime en revanche pour sa part que cette journée doit être aussi l'occasion de réfléchir à la culture et aux peuples aborigènes, ainsi qu'à l'impact représenté par la colonisation européenne sur leur civilisation.
That there should be more appreciation of the impact of European settlement on Indigenous Australians on Australia Day. That is an important part of the reflect element of Australia Day, but it's also the story of our newest Australians. And on this Australia Day, 16,000 people from more than 130 nations will take their final step to Australian citizenship, and they'll become just as Australian as the rest of us, and that is worthy of celebration.
Le leader des travaillistes Anthony Albanese est en train de présenter en ce moment même une partie de son programme au National Press Club et donc quelques semaines avant la tenue des prochaines élections fédérales. Il est question notamment aujourd'hui de son projet pour les écoles, de rénovation des écoles plus précisément. Il a notamment annoncé qu'il allait investir plus de 400 millions de dollars pour adapter ses écoles à la pandémie de coronavirus avec par exemple des moyens alloués pour améliorer la ventilation dans les établissements scolaires mais aussi pour construire des salles de classe en extérieur. Le coup d'État au Burkina Faso a été confirmé hier par ceux qui en sont les auteurs. Une dizaine de militaires sont en effet apparus lundi en fin d'après-midi à la télévision et ils ont confirmé avoir démis de ses fonctions le président Kabore. Ils ont aussi suspendu la constitution, fermé les frontières du pays et mis en place un couvre-feu. À Ouagadougou, le correspondant de RFI, Yahya Boudani, revient sur cette journée très particulière.
C'est après des heures de confusion et d'attente qu'un groupe de soldats se présente aux téléspectateurs. Leur porte-parole explique que c'est au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire et de l'incapacité manifeste du pouvoir de Rochma Christian Kabore à y faire face efficacement qu'ils ont décidé d'assumer leurs responsabilités. Le capitaine Sidsouré Kader Ouitrago précise que le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Ils annoncent d'ores et déjà les premières mesures. La constitution est suspendue, le gouvernement et l'Assemblée nationale sont dissoutes et les frontières terrestres et aériennes sont fermées pour compter du 24 janvier 2022 et ce jusqu'à nouvel ordre. Le porte-parole du mouvement assure que les opérations se sont déroulées sans effusion de sang et sans aucune violence physique sur les personnes arrêtées. Ces personnes seraient détenues dans un lieu sûr, dans le respect de leur dignité, fait savoir le porte-parole. Mais la grosse question que tout le monde se pose ce soir à Ouagadougou, où se trouve exactement le président Hoffmann Christian Kabore?
En Europe, une réunion d'urgence s'est tenue il y a quelques heures à propos de la situation en Ukraine. Le président américain Joe Biden a échangé avec plusieurs dirigeants européens après avoir annoncé avoir placé 8500 soldats en état d'alerte par crainte d'une invasion russe en Ukraine. Les Européens, eux, sont un peu moins alarmistes et ils appellent, je cite, à éviter les crises de nerfs. À Bruxelles, la correspondance de Pierre Benazet pour RFI.
Une grande unanimité et une grande détermination à faire face à la situation, c'est ainsi que les 27 résument leur débat sur l'Ukraine ce lundi. Ces affirmations restent de l'ordre du discours, car même si les Européens disent avoir sous le coude des sanctions qui pourront être déclenchées à tout moment en cas d'agression russe, ils refusent mordicus de les détailler, car ne rien divulguer fait partie de la dissuasion, selon le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Après la quasi-mobilisation annoncée par l'OTAN, après les craintes d'agression russe formulées par les États-Unis, l'Union européenne semble chercher à calmer les esprits, à éviter les crises de nerfs et les propos alarmistes, selon les mots mêmes de Josep Borrell. Les 27 se sont entretenus dans l'après-midi avec leur homologue américain, Anthony Blinken. Ils en concluent qu'il est inutile d'évacuer les personnels non essentiels. Il n'y a rien de nouveau, selon Josep Borrell. Il souligne que les négociations avec la Russie ont été menées par les États-Unis en pleine coordination avec l'UE, et il estime qu'il n'y a rien pour l'instant qui renforce pour les Européens la crainte d'une attaque imminente. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Et précisons sur ce sujet qu'après les Américains, le gouvernement australien a annoncé aussi hier soir qu'il appelait les quelques 1400 ressortissants australiens en Ukraine à quitter le pays au plus vite, où le ministère des Affaires étrangères craint l'éclatement d'un conflit armé imminent. On se tourne maintenant vers le Liban, où Saad Hariri vient d'annoncer qu'il se retirait définitivement de la vie politique. L'ancien Premier ministre ne prendra donc pas part aux prochaines élections législatives. Elles sont prévues au mois de mai. Pas plus d'ailleurs que sa formation politique, le Courant du Futur. À Beyrouth, les explications du correspondant de RFI, Paul Khalife.
Les traits tirés, les yeux en larmes et la voix brisée par l'émotion, Saad Hariri a annoncé son retrait, ainsi que sa famille et son parti de la vie politique qu'il dominait depuis presque 30 ans. En annonçant son départ, l'ancien Premier ministre a brossé un tableau sombre de l'avenir du pays. Il n'y a aucune opportunité positive pour le Liban à l'ombre de l'influence iranienne, de la confusion sur le plan international, des divisions internes, de la montée du communautarisme et de l'effondrement de l'État, a-t-il regretté. Pour éviter la guerre civile au Liban, Saad Hariri a dit avoir fait des compromis difficiles. L'accord de partage du pouvoir de Doha, conclu en 2008, sa visite à Damas en 2009, l'élection de Michel Aoun à la présidence en 2016. L'ex-premier ministre reconnaît cependant avoir échoué à assurer une vie meilleure aux Libanais. Alors, plutôt que de faire partie d'un système incapable de trouver des solutions aux problèmes de la population, il a préféré tirer sa révérence. Les partisans de Saad Hariri ont accueilli sa décision entre amertume et tristesse. Dès la fin de son annonce, des groupes de jeunes en colère ont bloqué des routes à l'aide de pneus enflammés dans les quartiers à majorité sunnite de Beyrouth. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
On a une idée maintenant un peu plus précise de la violence de l'éruption et du tsunami qui s'est abattu sur Tonga il y a maintenant un peu plus d'une semaine. D'après la NASA, le tsunami qui s'est abattu sur l'archipel était des centaines de fois plus puissant que la bombe atomique larguée sur Hiroshima en 1945. L'agence spatiale américaine précise que l'éruption a complètement oblitéré l'île volcanique de Hunga Tonga Hunga Hahapai. On reviendra sur les îles Tonga dans la suite de notre émission avec le témoignage du consul honoraire de France dans l'archipel. Et puis on quitte maintenant la Terre pour prendre des nouvelles du satellite spatial James Webb. Lancé par une fusée Ariane le 25 décembre dernier, il est arrivé à destination, c'est-à-dire à plus d'un million de kilomètres de la Terre, hier. Mais le télescope n'est pas encore tout à fait prêt à débuter ses observations. Il reste encore beaucoup de préparatifs à réaliser. Pour RFI, Simon Rosé.
Il a fallu allumer les moteurs une dernière fois et voilà la fin d'un périple d'1,5 million de kilomètres parcourus en un mois. Le télescope spatial James Webb est arrivé à destination. Il orbite autour de L2, le point de Lagrange 2. Les points de Lagrange, ce sont des endroits d'équilibre gravitationnel. Il suffit d'y stationner pour rester sur une trajectoire stable. Il y en a 5 dans la relation Terre-Soleil. Le deuxième se trouve dans l'alignement de notre étoile et notre planète. Si L2 a été choisi, c'est justement pour cette raison. À cet endroit, le Soleil et la Terre sont toujours dans le dos du télescope. Bien protégés derrière son immense pare-soleil, ces instruments bénéficieront donc du nombre perpétuel. C'est nécessaire pour leur bon fonctionnement puisqu'ils doivent être refroidis à des températures comprises entre moins 240 et moins 266 degrés. Même si Webb est arrivé à bon port, il faudra cependant encore attendre avant ses premières observations. Les semaines et mois à venir vont être consacrés au dernier réglage du miroir. Le télescope va fixer une étoile pour faire le point et éviter les images floues. Ce n'est ainsi qu'au mois de juin que son premier cliché sera rendu public.
Et comme toujours, nous terminons ce bulletin d'information en jetant un œil à la météo de ce mardi 25 janvier. Quelques nuages, mais toujours des fortes températures à Perth où il fait 32 degrés. 30 degrés à Adélaïde où le temps est humide aujourd'hui. Jusqu'à 34 à Melbourne. Bon courage aux joueurs de l'Open Australie. Il fait plus frais en revanche à Hobart, 24 degrés. 27 à Sydney où la ville est aujourd'hui sous la grisaille. 31 degrés à Brisbane et 32 degrés à Darwin où il y a de la pluie aujourd'hui et peut-être même une tempête plus tard cet après-midi.
Journal des sports de ce mardi avec tout d'abord l'Open d'Australie. Alizé Cornet, la Française, rejoint les quarts de finale d'un grand chelem pour la première fois de sa carrière. Hier, elle a battu Simona Halep, la Roumaine, en 3 manches. Elle jouera l'Américaine Danielle Collins, 31e mondiale, qui a éliminé la Belge Elise Mertens en 3 manches. Ce mardi, le choc entre le Français Monfils et l'Italien Berrettini. En quart de finale, c'est ce soir, après le match entre Ash Barty, l'Australienne, et Jessica Pegula, l'Américaine. On écoute Gaël Monfils sur RFI, sur ses chances de battre l'Italien.
Je suis content d'être en quart de finale, mais quand tu es toujours dans le tournoi, tu as toujours envie de gagner un match de plus, puis un match de plus, puis un match de plus. Donc je suis déjà concentré pour ce quart de finale. Je suis déjà concentré pour essayer de me donner les meilleures chances de pouvoir faire peut-être la première fois une demi-finale à l'Open d'Australie. J'ai envie de continuer à pousser et d'aller le plus loin que possible.
Nadal, l'Espagnol, jouera contre Chapovalov, le Canadien, à partir de 2h cet après-midi. Et en ce moment se jouent les quarts de finale. Krejčíková, la Tchèque, contre Madison Keys, l'Américaine. On passe à la CAN. Hier, il y avait 2 matchs des 8e de finale avec le Cameroun qui s'est imposé contre les Comores 2-1 et qui part en quart de finale. La Guinée a sorti la Gambie 1-0 et file également en quart de finale. Dimanche, le Burkina Faso et le Gabon ont fait match nul en temps réglementaire, mais le Burkina a gagné au tir au but 7-6. Christophe Jousset, RFI.
Il est l'auteur de cette délicieuse passe de l'extérieur du pied gauche pour lancer Bertrand Traoré vers l'ouverture du score à la 28e minute. Un geste de classe qui, à écouter Dango Ouattara, n'a rien d'extraordinaire.
Ça a été travaillé à l'entraînement et en match amical contre eux, on a vu qu'ils étaient un peu lents à l'arrière. Donc on a profité avec ça et félicitations à Bertrand qui n'a pas tremblé.
Et voilà comment l'expérimenté capitaine des étalons reçoit les félicitations d'un attaquant qui jouait à 19 ans son premier match de CAN comme titulaire. Le sélectionneur Kamou Malo pensait même à lui pour le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique.
N'eût été le Covid, peut-être contre le Cameroun, il aurait pu faire son baptême de feu. Mais malheureusement, la maladie est passée par là. Alors déjà contre l'Éthiopie, il avait fait une belle entrée. Aujourd'hui, il confirme tous les biens que l'on pense de lui. C'est à nous de travailler à aiguiser en tout cas l'humilité de ce garçon. Pour aller au sommet, il faut être humble.
Pas simple de garder la tête froide. Tout le monde en dit beaucoup de bien, y compris le défenseur du Bayer Leverkusen, Edmond Tapsoba.
Je le vois depuis tout petit. C'est un super joueur. Quand j'ai vu son nom dans la liste, j'ai tout su qu'il allait beaucoup nous aider avec sa vitesse, sa technique. et aussi sa percussion. J'espère bien qu'il va accrocher un contrat d'ici la fin de la CAN.
Né à Ouagadougou, Dango Ouattara évolue à Lorient en France et compte 11 matchs de Ligue 1.
Dans l'autre match, la Tunisie a éliminé le Nigeria, un des favoris de la compétition, 1-0. Sofiane Amaziane, RFI.
C'est une qualification que l'on n'attendait pas, hein, tant les Super Eagles avaient fait forte impression en phase de poule. On le rappelle, 3 victoires en 3 matchs, mais le football réserve souvent de belles surprises. Cette fois-ci, elle est du côté tunisien. Victoire 1-0, but de Youssef Msakni, remplaçant au coup d'envoi, mais autorisé à jouer le matin du match après un test négatif. Wabi Kazri, l'attaquant tunisien, était heureux de la réaction de l'équipe.
Ce soir, tout le monde nous voyait perdants et on a montré à tout le monde que nous aussi, on savait jouer au football. On est demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique, donc je comprends pas pourquoi les gens nous sous-estiment, mais c'est vrai qu'on a fait 3 matchs de poule, on a été moyen, faut assumer. Mais là, on monte en puissance et on souffre beaucoup. Les gens disent que c'est des excuses, mais c'est pas des excuses. On est enfermé dans des chambres, qu'on a le Covid pendant une semaine, on voit personne, on a l'écart du groupe. Ce soir, on a montré qu'on était une grande nation du football. On sait que la plupart des Tunisiens, ils sont heureux et fiers pour nous. Et aussi, à dire... Une pensée pour les collègues qui sont restés bloqués, les pauvres. Ça fait 10 jours qu'ils souffrent, qu'ils sont tout seuls. Donc une grande pensée pour eux. Maintenant, j'espère qu'on va les récupérer. On va travailler une semaine pour bien reprendre du rythme et essayer d'aller maintenant le plus loin possible.
Ce mardi, 2 matchs des 8e de finale. Sénégal-Cap-Vert et Maroc-Malawi. Analyse de Annie Gasnier avec Rémi Ngono et Nabil Djellit de Radio Foot International.
Avec des Sénégalais qui reviennent en jeu face aux Cap-Verdiens, un derby régional puisque ces deux pays sont là aussi voisins, hein, évidemment beaucoup de voisins pour le Sénégal. Les Lions sont très attendus, Rémi Ngono. Depuis l'entrée en compétition, ils sont arrivés avec l'étiquette de favoris, demi-finaliste à la dernière compétition et tout. Est-ce que les journées de préparation auxquelles ils ont eu droit ces derniers jours leur ont permis, parce qu'on sait que certains sont arrivés tard et tout ça d'Europe, est-ce que ça leur a permis, selon vous, de s'entraîner mieux et d'être mieux ?
Naturellement, parce que lorsque vous n'avez pas eu une préparation, qu'il n'y a pas eu une cohésion, et que finalement vous avez aussi eu beaucoup d'absents, donc maintenant, je crois quand même qu'ils sont convaincus qu'ils sont pratiquement dos au mur. Parce que là, c'est un match à élimination directe et vous ne pouvez pas dire que vous êtes la première nation africaine, vous avez les plus grandes individualités et vous n'avez pas changé d'entraîneur, que vous veniez tomber devant le Cap-Vert. Non, c'est pas possible, c'est même inexcusable. Jusqu'à présent, les Lions n'ont pas montré un fond de jeu. C'est vrai que on se plaint toujours qu'il n'y ait pas ce fond de jeu. Donc, je crois quand même que cette fois-ci, cette équipe des Lions va enfin apprendre à ne pas jouer uniquement sur Sadio Mané, à pouvoir exploiter d'autres personnes, parce qu'il y en a assez.
Nabil Djellit, juste pour terminer, un petit mot, et ça sera sur cette rencontre entre le Maroc et le Malawi. Les Lions de l'Atlas sont très attendus. Coach Vahid sait qu'il faut s'en méfier.
Les Lions sont dans la place. Surtout, le Maroc est plutôt très intéressant, cohérent, depuis le début de cette compétition. Notre ami Rémi parlait des clean sheets du côté de nos amis
Gambiens.
Du côté du Maroc, sur les derniers matchs également, c'est très fort défensivement, même si face au Gabon, ils ont pris 2 buts, mais leur charnière centrale n'était pas celle qui était en règle générale titulaire, puisque Romain Saïs n'est rentré qu'à la fin du match. Le Maroc, il faut éviter l'écueil de la dernière CAN 2019, où ils avaient été éliminés par le Bénin, souvenez-vous. Face au Malawi, on les a vus plutôt... pour le Malawi, le tournoi, il est réussi. Hein. C'est comme les Comores face au Cameroun. C'est-à-dire là, c'est du bonus. Hein. On les a vus face au Sénégal, plutôt entreprenant, mais en deuxième mi-temps, quand même, en difficulté, notamment physiquement. Bon, le Maroc, l'objectif, c'est pas de s'arrêter demain face au Malawi. Ça sera un échec XXL de se faire éliminer par le Malawi. Donc, en tout cas, pour moi, le Maroc est clairement un client pour le sacre final de cette Coupe d'Afrique des Nations.
On passe à la Ligue 1 en France. Dimanche, il y avait plusieurs matchs. Bilan de tous les matchs avec Simon Bourtembourg et Christophe Diremzian pour RFI.
Ils se sont donc imposés 4-0, notamment grâce à un but de Sergio Ramos pour sa première titularisation au Parc.
touché aux adducteurs face à Brest le week-end dernier. Kylian Mbappé était bien titulaire ce dimanche, mais il est resté muet. Lionel Messi était aussi dans le groupe parisien. Il est rentré en cours de match, donc l'Argentin a joué ses premières minutes en 2022.
Festival de buts également entre Bordeaux et Strasbourg.
Tout à fait, les Bordelais ont rapidement mené au score, déjà 3-0 après seulement 40 minutes de jeu. Une première mi-temps XXL donc, mais un doublé de Kevin Gamero a permis aux Strasbourgeois de rester dans le match. Pas de quoi faire trembler les Girondins qui se sont finalement imposés sur le score de 4-3. On peut noter le triplé du Bordelais Wang qui devient par la même occasion le meilleur buteur asiatique de l'histoire de la Ligue 1. Il a inscrit 26 buts dans le championnat français. Grâce à cette victoire face à Strasbourg, les Girondins de Bordeaux y quittent enfin la zone de relégation.
L'autre match au foot de cette 22e journée, voyez s'opposer Montpellier et Monaco.
Et oui, alors qu'ils menaient 2-0, les Montpellierains ont été rejoints au tableau d'affichage avant de finalement s'imposer grâce à un but dans les dernières secondes. 3-2, donc le score final, et une victoire importante qui permet à Montpellier de passer à la 6e place du classement devant leur adversaire du jour, les Monégasques.
Les Niçois signent l'autre belle opération de ce dimanche en s'imposant face à Metz.
Alors que Marseille était 2e au tableau, les Aiglons reprennent la place de dauphin de Ligue 1 grâce à leur victoire 2-0 face à Metz. Les Lorrains retrouvaient pourtant leur meneur de jeu Farid Boulaya, revenu de la Cannes, mais cela n'a pas suffi. Côté niçois, Mario Lemina est rentré en jeu, lui qui a pourtant dû quitter la Cannes et la sélection gabonaise pour des problèmes de santé liés au Covid-19. Quoi qu'il en soit, la bonne opération, elle est pour Nice, qui pointe désormais à 11 points du Paris Saint-Germain leader.
Angers retrouve enfin le parfum de la victoire.
C'est bien ça, Angers s'est imposé 2-1 face à 3. Un premier succès, c'est bien ça, donc pour le SCO, après près de 2 mois sans victoire en Ligue 1. Les Angevins étaient pourtant toujours privés de 4 joueurs partis à la Cannes, dont Sofiane Boufal.
De leur côté, Nantes et Lorient se sont quittés sur le score de 4-2.
Oui, une confrontation lors de laquelle des joueurs africains se sont illustrés. Le Nigérian Terem Mofi et le Sénégalais Sambou Soumano ont marqué les 2 buts lorientais. Le Ghanéen Ousmane Boukari a quant à lui inscrit le 3e but des Canaries.
Et pour finir, Rennes est tombé face à Clermont.
Bah oui, le Stade Rennais reste bloqué à la 5e place du championnat, désormais à 6 points du podium. Malgré leur victoire convaincante le week-end dernier, 6-0 face à Bordeaux, les Rennais n'ont pas réussi à enchaîner. Ils se sont inclinés aujourd'hui 2-1 sur la pelouse de Clermont. Le Clermont Foot qui occupe désormais la 15e place du championnat.
En Angleterre, le week-end dernier, c'était la 23e journée. Liverpool, 2e, a battu Crystal Palace, 3-1. Et Chelsea, à la 3e place, s'est imposé contre Tottenham, 2-0. Manchester City est toujours en tête. En Espagne, la 22e journée, marquée par le nul entre le Real de Madrid et Elche, 2-2. Le FC Barcelone, à la 5e place, s'est imposé contre Alaves, 1-0. En Italie, l'AC Milan et la Juve de Turin ont fait match nul 0-0. Naples, 2e, s'est imposé contre Salernitana, 4-1. En Allemagne, le Bayern de Munich, premier au classement, a battu Hertha Berlin, 4-1. Voilà pour le journal des sports de ce mardi. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français.
Allez, on revient maintenant au temps présent. C'est l'heure de faire le point sur les actualités de la semaine en France.
Le ZAP France et cette question. Et si François Hollande, l'ancien président de la République de 2012 à 2017, se présentait à la présidentielle d'avril prochain ? Dans une émission de France 3, intitulée « Seconde 9 », il a laissé planer le doute alors qu'il répondait à des lycéens. Ses propos ont aussitôt fait le buzz sur les plateaux de télé et radio. François Hollande, candidat, alors qu'il y a déjà embouteillage à gauche et que la candidature d'Anne Hidalgo, la socialiste, ne décolle pas. C'est le ZAP France, avec des extraits notamment des radios RTL et RMC.
Bah pour l'instant, je ne suis pas candidat, tu as remarqué. Mais comme ça ne va pas bien, c'est vrai que... On pourrait se dire, est-ce qu'une candidature de plus serait utile ? Je ne sais pas.
Non mais ce serait quand même extraordinaire si François Hollande se présentait donc 2 semaines après Christiane Taubira.
Après avoir renoncé en 2010.
Mais tout à fait.
Ce qu'il regrette d'ailleurs, je pense qu'une partie de ce qu'il raconte aujourd'hui...
Mais est-ce que les gens le regrettent ?
Non mais ce qu'il dit aujourd'hui, une partie de ce qu'il dit aujourd'hui, c'est parce que
il désormais, il regrette de ne pas s'être présenté. Il aurait peut-être pas été élu, mais il regrette de ne pas
s'être
présenté.
Même que s'il s'était présenté, il aurait été élu.
J'ai les mêmes idées qu'avant, donc je continue à les défendre. Et un ancien président peut très bien refaire de la politique et c'est arrivé être candidat à l'élection présidentielle.
Est-ce que vous allez prendre une décision bientôt? Je demande, je pose la question.
Ben, je vais en tout cas prendre la parole bientôt.
Là, ce qui est incroyable, c'est quand même une peau de banane à la candidate officielle, Anne Hidalgo, quand même, du Parti Socialiste. Donc je trouve ça d'une méchanceté absolue. Alors elle a répondu ce matin en disant, c'est de l'humour,
oui, mais
en fait...
c'est de l'humour, mais enfin...
C'est pas de l'humour.
Anne Hidalgo, vous êtes maire de Paris. Vous avez été confortablement réélue en 2020. Qu'est-ce que vous êtes allée faire dans cette galère?
D'abord, j'ai des convictions, j'ai des valeurs, et je pense que le moment d'une élection présidentielle est un moment qui doit permettre aux Françaises et aux Français de choisir.
Mais 3%
que l'on puisse s'attaquer, aux situation. Vraies questions, que le contexte ne soit pas facile, ça ne m'a pas échappé, ça n'échappe à personne.
Mais je la pense situation n'est pas est tellement grave que même François Hollande se pose la question d'être candidat. En tout cas, il ne l'exclut pas. Vous avez sans doute vu ses propos devant des élèves de seconde, et il dit en plus qu'il prendrait la parole bientôt.
Oui, écoutez, d'abord, François Hollande, que je vois régulièrement, a beaucoup d'humour, et je crois qu'il a fait preuve de beaucoup d'humour devant ses élèves de seconde. Et je suis pas là pour commenter les petites phrases.
Est-ce qu'un candidat peut mentir en promettant des choses pendant sa campagne électorale?
C'est souvent ce que beaucoup pensent, que la politique c'est des mensonges, c'est des promesses qui sont jamais tenues. Mais au moment où on l'exprime, oui, c'est sincère. Après, on est confronté à une fois qu'on a été élu, à la réalité. Prenons un exemple. Je promets que je vais, c'était d'ailleurs mon cas, je vais diminuer le chômage. C'est cette promesse. Ah, mais d'accord, quand on arrive après, bah...
Est-ce que vous regrettez des choses en tant que président? Enfin, quand vous étiez président.
Pourquoi ne voulez-vous pas reprendre votre trône?
Est-ce qu'il y a une face cachée dans l'état présidentiel du genre qui nous cache des choses? Que seul l'est assez.
Évidemment qu'il y a des choses que le président sait que nous, on ne sait pas.
D'accord. Non, merci. On a eu un quinquennat de François Hollande qui a absolument d'abord déçu son propre électorat, qui a commencé sans le Front de Gauche, qui a été à moitié sans les Verts qui sont barrés de son gouvernement et qui a fini sans les socialistes, puisque les frondeurs étaient des socialistes qui se sont barrés aussi. Enfin voilà, ça a été un échec ce quinquennat et on en paye encore le prix
à nous. Ce qui est évident, et ça je l'affirme, si la gauche est dans cet état-là, c'est à cause de lui, à cause de lui tout seul, c'est lui qui a tué la gauche pour la mettre dans l'état où elle est.
Pour l'instant, je ne suis pas candidat, tu as remarqué. Mais comme ça ne va pas bien, c'est vrai que... On pourrait se dire, est-ce qu'une candidature de plus serait utile? Je ne sais pas. En tout cas, merci pour toutes vos questions, parce que vous me mettez dans des retranchements, là.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
On va maintenant revenir près de chez nous dans le Pacifique et prendre des nouvelles des îles Tonga. 8 jours après l'éruption du volcan qui a ébranlé l'archipel des Tonga le 15 janvier dernier, l'ampleur des dégâts causés sur place reste immense. L'aide internationale apportée notamment par la Nouvelle-Zélande et l'Australie a commencé à arriver, mais la situation est encore loin d'être revenue à la normale. C'est ce qu'a pu nous expliquer Finetui Moala. Il est consul honoraire de France au Tonga et même si la liaison téléphonique n'était pas excellente, il a pu nous décrire ce qu'il voit sur place.
C'est ça fait une semaine, c'est toujours des cendres partout. C'est juste les côtes et les gens dans la vague ont eu leur maison complètement détruite ou endommagée.
Dans la capitale Nuku'alofa, les dégâts sont moins lourds, mais sur place, tout le monde participe malgré tout au nettoyage et à la reconstruction de l'archipel.
Chacun essaye de balayer un peu. La route devant chez soi. Pour l'instant, tout le monde essaie d'aider un peu là où il peut l'aider.
Vendredi, une première amélioration significative a été mise en place, le rétablissement partiel des communications par liaison satellitaire. Un vrai soulagement pour la population et plus encore pour leurs familles à l'étranger qui n'avaient aucune nouvelle depuis près d'une semaine. La diaspora tongienne est en effet très importante, alors que 100 000 personnes vivent sur l'archipel. Ils sont plus de 30 000 en Australie et plus de 80 000 en Nouvelle-Zélande.
Tout le monde depuis vendredi essaye de communiquer avec leur famille à l'étranger qui ont été très inquiets pendant les jours où il y avait totalement pas de communication.
On imagine en revanche que le nombre de Français inquiets pour leurs proches était beaucoup plus réduit. La communauté française sur place est microscopique.
Il y a deux Français de la métropole sur l'île principale. Je pense qu'il y a un troisième sur une autre île au nord, Oahu. Et à part eux, il y a quelques familles wallisiennes.
Mais s'il est de nouveau possible d'utiliser le téléphone ou même de se connecter à Internet, ce n'est pas le cas dans l'ensemble de l'archipel. Certaines îles sont encore complètement isolées et il est impossible de les joindre depuis la capitale.
On est coupé aussi des îles du nord. Vu qu'on est connecté à eux par câble fibre optique, donc il n'y a pas vraiment de connexion. Donc l'île principale Tongatapu, elle est coupée des îles du Nord, mais pas vraiment de communication. Même nous ici, place, on n'en sait peut-être pas plus que vous, mais je pense que pour la plupart des gens, c'est pas l'important. L'important ici, c'est de continuer avec la vie normale.
L'éruption du volcan a aussi réduit la télévision locale au silence. Seules les ondes radio permettent actuellement de diffuser des informations.
La seule voix en ce moment, c'est juste la radio. Même la télé, elle n'est pas en opération en ce moment. Mais je pense que la plupart des gens, ce n'est pas vraiment le but en ce moment, c'est de savoir les infos, c'est juste de continuer avec la vie, d'essayer tous les jours de balayer. Et je pense qu'on souhaite avoir une grosse pluie ou une bonne semaine de pluie. Ça a été pratiquement sec depuis l'éruption. Donc, les cendres sont là.
En attendant la pluie, la France a annoncé l'envoi par avion de 10 tonnes de fret humanitaire depuis la Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, rappelons que si vous aussi vous souhaitez venir en aide aux îles Tonga et à ses habitants, sachez que le porte-drapeau aux Jeux Olympiques de l'archipel, Pita Taofa Tofua, a lancé une cagnotte en ligne dont vous retrouverez le lien sur notre site. Elle a déjà permis de collecter plus de 700 000 dollars. Allez, pour la dernière partie de notre émission, on va maintenant parler de mode aborigène. Jessica Bird, la directrice de la galerie d'art Bendigo, a parlé à notre collègue Jean-Noël Ducasse de l'exposition « Pinpi Goes to Paris » qui, comme son nom l'indique, sera prochainement présentée en France, à Paris.
Great pleasure of welcoming on SBS French, Jessica Bridgefoot. Welcome.
Thank you.
And you are the Bendigo Art Gallery Director. And we're going to be talking about Pinpi. I hope I'm pronouncing everything correctly. Pinpi Goes to Paris. It's an exhibition of contemporary Australian Indigenous fashion and design creatives. What can you tell us about that?
Oh, thank you. And Pinpi is how you pronounce it. Well done. So Pinpi is actually a Kanju word, which is from East Cape York region of Australia, and it means seasons. Mm-hmm. And seasons underpins the whole curatorial premise or the themes within the exhibition. So the exhibition is based around the Indigenous themes, which kind of range from seasons, which range from between 5 to about 14 seasons per year. And that's the way that the exhibition is laid out. So to give you some context, that this is the first Indigenous fashion exhibition, or the largest in Australia. And we're very excited that this exhibition is touring to Paris. And the original exhibition featured over 90 garments drawn from all around Australia. And as the title, Pimpi, infers, the exhibition does follow the Indigenous season. So the garments are grouped into sections of the wet season, cool season, the season of regeneration, so when flowers come out. And when the turtles lay their eggs. And then there is the cool season as well, which includes, you know, sort of beautiful garments and possum skin cloaks, as well as, of course, a streetwear section, which is called Black and Deadly. So the exhibition will be touring to Paris in January, and we think that this is definitely the first of its kind to be presented in Paris. So it will be fascinating to see how it's received.
A world premiere. So the exhibition was curated by Shoney Hobson, I believe?
Yes, that's right. And Pimpi is Kanju, which is Shoney's grandmother's language for seasons. So it was a very initially a personal exhibition, taking that story and then sort of extending it in, you know, what really is, I think, such a generous gesture of culture and storytelling. And I think that is what really sets Indigenous Australian fashion apart, in that it is a confluence of storytelling and ancient culture with, you know, a contemporary sort of sensibility, and definitely in a contemporary sense something to say. So each of the garments in the exhibition have their own story to tell about being on country or dreaming, as well as being absolutely beautiful and wearable.
And the other designers are of Indigenous background?
Yes, yeah, so all of the designers in the exhibition are Indigenous. Some of the garments that are in the exhibition are collaborations between garment makers and artists who paint directly onto the fabric, or screen print as well. So some of the garments, like, for example, the Hope Vale garments, very much look like wearable art, in that they're, you know, highly colourful and yeah, sort of patterned, as well as being quite sculptural. The original exhibition featured over 70 artists and designers, and the touring exhibition features 50 artists and designers.
So the exhibition is being facilitated by the federal government and also by Creative Victoria's strategic program?
Yes, it's part of a big presentation, which I believe is called Australia Now in Paris, and obviously has been staged to coincide with Haute Couture Week in Paris. So not only will there be an exhibition at the Australian Embassy Gallery, which is a beautiful gallery, but there'll also be an exhibition, a pop-up exhibition at the BHV department store in Marais during the Fashion Week. And so we're pretty excited about that, because I think that also gives the artists and designers an opportunity to sort of showcase their work in a retail and commercial setting as well. So hopefully there'll be lots of exposure for the designers, and some good things will come out of this, because I think Indigenous fashion, is definitely kind of the next exciting export for Australia. We know that there's a huge appetite for Indigenous Australian design and, particularly painting and art, but fashion is certainly the kind of next exciting industry, I think, that's starting to burgeon. And, yeah, it's very exciting to be a part of it. We just hope that, all good things come out of this, and the more attention on Indigenous Australian designers, the better.
Fantastic news. And we take the opportunity, because you are the director of the Bendigo Art Gallery, to ask you some questions about some of the exhibitions that are on at the moment over summer for the kids.
Oh, fantastic. Well, we've got quite a great range of exhibitions on at the moment. So we've got some beautiful contemporary artworks from our collection out on display some recent acquisitions and some old favourites, including our gorgeous Patricia Piccinini young family, which is always a delight for young kids and families. But we also have the Arthur Guy Memorial Painting Prize, which is a big contemporary survey of Australian painting now, and an exhibition that we've curated with a curator called Noor Shkembi. And that exhibition is called Soul Fury, and it features the work of women artists of Islamic heritage, Australian and international artists, and brings them together in this really large survey of you know, Islamic contemporary art, which is a fascinating show, and that will be on all over summer.
And next year you've got Elvis direct from Graceland.
Yes, we do. Yeah, we're very much looking forward to Elvis, and it's an exhibition that, you know, we've been talking about for a long time. We do tend to have a focus on fashion and design and celebrity as well as contemporary art, but, you know, we do love a good sort of celebrity fashion show, and my gosh, like, who better than Elvis to focus on, you know, what incredible style he had, and a style that still absolutely resonates today. So that's a show that we've curated with the Graceland Archives, and many of the objects in the exhibition, which are pretty outrageous, like the gold-plated telephone he had on his bedside table, are coming over, and they've never left the gates of Graceland. So it's a real opportunity for, you know, people that are interested in Elvis, obviously, or music, but also are interested in pop culture to come and have a look at, I guess, you know, the 20th century sort of original celebrity. He's certainly probably one of the most iconic figures of our time.
Jessica Bridgewood, thank you so much for coming on to SBS French and speaking about Pimpi Goes to Paris, and all the best for the future. Thank you.
Thank you. Thank you for having me.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ce qui ne
s'est... SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte sur cet extrait très court de Stromae intitulé Santé. Prochain rendez-vous en direct, ce sera jeudi à 13h. Je vous rappelle qu'en attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de notre production en podcast en vous abonnant à notre chaîne SBS French sur votre plateforme de streaming audio préférée. Passez une excellente après-midi et à très bientôt.
Dans une heure, je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.